Africa. Le journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa Radio.
Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole est à vous pendant 30 minutes sur Africa Radio. Aujourd'hui dans le JDA, France-Burundi, une reprise de la coopération entre les deux pays qui fâchent. En octobre dernier, en toute discrétion, la France et le Burundi ont décidé la reprise de leurs relations bilatérales à travers une coopération dans les domaines de l'éducation et de la défense. Un accord conclu alors que l'Union européenne venait de renouveler ses sanctions à l'encontre du régime de Pierre Nkurunziza. L'opposition burundaise se dit abasourdi par cette décision. Nous en parlerons avec Élise Ngabire, journaliste burundaise vivant en France. Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00 ou laissez-nous un message sur WhatsApp au 33 7 66 19 77 69. Mais avant d'évoquer notre sujet du jour, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, bonjour amis auditeurs d'Africa Radio. Écoutez, c'est mon coup de gueule parce que je viens d'écouter Monsieur Jomo Debayne, bon, qui n'est pas toujours obligé de donner son avis sur tous les sujets parce que je ne pense pas qu'on puisse avoir la science infuse de tout connaître. Parce que là, je viens de l'écouter sur la mort de Mamadou Barry. J'avoue que c'est désolant. Franchement, je sais même pas les qualificatifs. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité la mort d'un homme et sur la supposée politique africaine, sur l'immigration. Je le rappelle que ce garçon, je pense savoir qu'il travaille à la fois sur Conakry et sur l'université où il a malheureusement, enfin, dans la ville où il a malheureusement trouvé la mort. Donc, ça n'a rien à voir des enseignants. Au niveau international, ça existe partout. Il y a des Français qui enseignent aux États-Unis, qui enseignent en Afrique aussi. Il y a des Africains qui enseignent un peu partout. Donc, ce n'est pas une histoire de politique. Par moment, il faut parfois se garder de certains commentaires, surtout vu le drame auquel on est confronté là. Voilà.
Oui, bonjour, Africa numéro 1, monsieur Danone en appareil. En cette heure, je vous appelle ce matin pour décrypter ensemble le discours du président Alassane Dramane Ouattara au sujet des élections en 2020. J'ai écouté le discours de M. Ouattara lors de son allocution pour l'indépendance à la nation. M. Ouattara, qui n'a pas caché vraiment, il a dit ouvertement qu'il veut être candidat en 2020. Mais j'ai l'impression que M. Ouattara ne mesure pas l'impact de se présenter encore. Qu'est-ce qui va arriver aux Ivoiriens? Je crois que le monsieur n'a pas tiré d'éléphant. Et de deux, j'ai l'impression qu'il sous-estime tout et il prend tout à la légère, surtout au sujet de la rencontre de M. Henri Konabédé et M. Laurent Gbagbo, les ex-présidents. C'est vrai, on peut être bien avec son peuple, mais quand on est avec son peuple, qu'on sait que dans le peuple, il y a toujours des gens qui revendiquent, on tient compte de la revendication de ce peuple-là. Et c'est par rapport à ça qu'on arrive à décider quelque chose. M. Ouattara n'est plus crédible aux yeux des Ivoiriens. Et j'ai l'impression que lui-même, il ne s'en rend pas compte. S'il a lieu de lui donner un conseil, moi, je lui dirais de ne pas être candidat en 2020.
Oui, bonjour les amis africains. Je suis africain comme vous, je suis du Congo. Je vous appelle pour indigner, je suis indigné par rapport à ce que je vis, les Ivoiriens qui se trouvent dans le désert entre la Tunisie et la Libye. C'est franchement, c'est incompréhensible par rapport à nos dirigeants, soi-disant nos dirigeants, qui voient tout ça là et ils continuent à avoir des relations diplomatiques avec tous ces pays-là. Les Marocains l'ont fait, la police marocaine a chassé les Noirs, la police algérienne a chassé les Noirs, pareil. Et là, c'est la Tunisie, c'est-à-dire c'est l'État qui cautionne tout ça là. Mais nos dirigeants, pourquoi ils gardent les relations diplomatiques avec tous ces pays-là? Pourquoi on n'a pas cette dignité-là, en tant qu'un humain, en tant qu'un Noir, de rompre avec tous ces gens-là? Mieux vaut mourir pauvre que d'être humilié de cette façon. Franchement, je demande à M. Ouattara qui fasse un effort d'être digne quand même. Voilà, merci, je vous remercie.
Bonjour Nadir, bonjour à tous les états d'Africa Radio, bonjour l'Afrique. Nous avons parlé dernièrement de la situation en Gambie. En fait, la commission Solidarité Réconciliation concernant les crimes commis par Yahya Jammeh. Je disais que c'était un tribunal. On dit que c'est pas un tribunal, c'est juste une façon de vouloir savoir comment les choses sont passées et tout. Mais en Afrique, c'est comme ça. Quand les gens commettent les crimes, un peu partout ailleurs, ils sont souvent protégés. On oublie que non, il y a eu des pertes en vies humaines. Les familles se sont endeuillées. Et il n'y a que d'impunité. Voilà, maintenant, tous ces bandits-là qui ont tué leurs propres compatriotes là-bas pour protéger le pouvoir de Yahya Jammeh. Aujourd'hui, on les a libérés. Et donc, les familles des victimes, j'avais dit à l'émission, que deviendront les familles des victimes au cas où on libérait. Et là, on les a libérés.
Bonjour Africa Radio. Bon, moi je voudrais dire à l'Africa Radio et les animateurs de l'émission, je voudrais dire qu'on ne doit pas avoir l'habitude de parler des mêmes pays qu'on entend tous les jours. On peut changer les choses, donc l'Afrique a 54 États, on peut changer les jours des choses, des pays qu'on entend très peu. Moi je vais donner 4 exemples très rapidement. Le premier exemple, c'est le Libéria de M. George Weah, près de 2 ans après. Parce que ce monsieur, ce jeune a fait du tapage, il a bousculé les jeunes, parce que c'était un bon joueur, ce sportif. Bon, maintenant, où nous en sommes avec le Libéria de M. George Weah? Deuxième exemple, la Guinée équatoriale de M. Obiang Nguema et son fils. M. Obiang Nguema est le plus vieux chef de l'État africain au pouvoir, mais je reconnais en lui, que nous reconnaissons en lui, un monsieur qui a travaillé, qui a tout fait, qui a changé la Guinée équatoriale, qui fait honneur. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre, que le pouvoir n'est pas royal. Et il n'est pas question automatiquement de changer de père au fils. Mais sinon, M. Obiang Nguema mérite le respect de tout ce qu'il a fait pour son pays. Sauf son fils qui ternit l'image de la Guinée équatoriale. Je veux parler encore de l'Angola, après de M. Dos Santos, sa fille la plus riche de l'Afrique, la 6e milliardaire dans le monde.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant 33 1 55 07 58 00 ou 33 1 55 07 58 00. En octobre dernier, en toute discrétion, la France et le Burundi ont décidé la reprise de leurs relations bilatérales à travers une coopération dans les domaines de l'éducation et de la défense. Un accord conclu alors que l'Union européenne venait de renouveler ses sanctions à l'encontre du régime de Pierre Nkurunziza. L'opposition burundaise se dit abasourdie par cette annonce. Le Burundi en crise depuis que le président Nkurunziza a décidé en 2015 de briguer un troisième mandat qu'il a obtenu la même année et jusqu'ici sous sanction de l'Union européenne et de ses États membres, notamment pour son refus de négocier avec l'opposition en exil et les multiples violations des droits de l'homme qui lui ont valu l'ouverture d'une enquête de la CPI pour crimes contre l'humanité. La France semble avoir décidé de faire cavalier seul. Pour en parler, nous avons en direct Élise Ngabire. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'intervenir en direct dans ce JDA. Alors vous êtes journaliste burundaise, vous êtes en exil en France depuis plusieurs années. Comme l'opposition, êtes-vous choqué, étonné par la décision de la France de renouer avec le régime en place au Burundi ?
La décision de la France est une décision qui personnellement m'a surprise désagréablement, voire qui m'a choqué. Elle m'a choquée dans un contexte où la France, c'est le pays de l'Europe, après la Belgique, à avoir accueilli pas mal de réfugiés.
Oui.
Là, il y a des chiffres qui parlent, ce n'est pas du blablabla.
Oui.
Il y a des chiffres qui parlent, si on va auprès de l'OFPRA, la communauté burundaise avant 2015, elle était estimée à plus ou moins 2000.
Oui.
Mais là, les chiffres, ils ont gonflé,
oui.
Ils ont gonflé, voire au triple, voire au quadruple.
D'accord.
C'est la première fois dans l'histoire de la France qu'elle accueille autant de journalistes réfugiés.
Oui.
On est plus d'une dizaine.
Oui.
Donc la France ne peut pas prétendre ne pas être au courant de ce qui se passe au Burundi,
oui.
De ce qui se passe dans ce petit pays de l'Afrique de l'Est.
Oui. Oui.
La France est au courant et nous, on a été franchement très, très, très surpris,
oui.
Voire choqués.
Alors, le ministère français des Affaires étrangères assure que la position française n'entre pas en contradiction avec les décisions européennes. D'après le Quai d'Orsay, hein, le ministère français des Affaires étrangères, pour la France, il ne s'agit pas d'une reprise de l'aide au gouvernement burundais, mais aux populations. Que pensez-vous de cet argument du ministère français des Affaires étrangères ?
À moins que ça soit son ambassadeur à Bujumbura qui ait mal exprimé le partenariat qui a été signé.
Oui.
À ma connaissance, il s'agit de l'aide dans le domaine militaire,
oui,
et dans le domaine de l'éducation.
Oui.
Et dans le domaine de l'éducation, ce n'est pas envers les enfants burundais, c'est envers des militaires. Mais quels militaires ont commis des crimes depuis, oui, la crise de 2015, même avant?
Oui.
Et c'est une contradiction.
Oui.
Il y a les Pays-Bas qui avaient déjà financé les corps de défense et de sécurité pour qu'ils aient une formation afin de pouvoir protéger la population. Mais, oui, à voir ce qui s'est passé en 2015,
oui,
ils ont retiré de l'aide, ils sont partis, les Pays-Bas ne sont plus là-bas. Et si le Burundi si la France aujourd'hui va vers le Burundi,
oui,
en sachant ce qui s'est passé,
oui,
il y a même pas, on n'est pas loin de 2015,
oui,
il n'y a même pas 5 ans.
Oui.
Et là, c'est une véritable contradiction,
oui,
de ce qui se passe sur le terrain. Un pouvoir qui viole des libertés constitutionnelles, qui viole la loi fondamentale d'un pays,
oui,
et la France qui va aider dans le domaine militaire.
Oui.
Ça aurait été un autre domaine, le domaine de l'agriculture. Là,
d'accord,
je comprendrais,
oui,
parce qu'il y a la population qui meurt de faim à la suite de cette crise-là.
Oui.
Mais dans le domaine militaire, c'est là où il fallait plutôt bloquer et encore bloquer pour amener ce pouvoir à respecter les droits humains, pour amener ce pouvoir à respecter les principes qui ont été signés à Arusha après une dizaine d'années de négociations.
Pour reprendre l'argument du ministère français des Affaires étrangères, selon vous, peut-on aider directement la population sans passer par les autorités au Burundi?
Oui, c'est ce que les autres pays font.
Oui.
Ils passent par des associations qui vont directement vers la population qui aujourd'hui souffre, comme je vous le disais tout à l'heure.
Oui.
Mais aider les militaires, la formation des militaires qui après iront réprimer la population, ça nous retourne en arrière. On revient à la case départ, voire même le pire. Voilà.
Est-ce que pour vous, cette décision française crée une confusion pour l'Union européenne qui devrait parler d'une seule voix concernant le Burundi ?
Je pense pas. Je pense que l'Union européenne reste souveraine.
Oui.
La France est je dirais, pour des raisons personnelles, elle a décidé de faire ce qu'elle a fait. Peut-être qu'il y a des intérêts qu'on ignore encore aujourd'hui. Moi, je pense que la France n'a pas fait ça gratuitement. Il y a peut-être quelque chose qui est caché derrière.
Oui.
Mais jusque-là, c'est l'Union européenne.
Quoi, selon vous ? Quoi ? Qu'est-ce qui est caché, selon vous ? Avez-vous une
idée ? C'est vrai que la France, elle a perdu pas mal des territoires africains.
Oui.
Ben là, on va parler de la géopolitique, plus ou moins.
Oui.
Que c'est une façon, au moins, de
retrouver une influence dans cette région.
Une influence, oui, voilà, dans cette région. Mais jusque-là, on n'en fait rien. Attendons voir. Mais en ce qui concerne les décisions, je pense que l'Union européenne reste souveraine. Et ce n'est pas trop tard pour que la France retire cette décision.
Mmh. 33 1 55 07 58 00, exprimez-vous, appelez-nous pour donner votre avis sur le sujet du jour. Que pensez-vous de la décision de la France et du Burundi de reprendre leurs relations bilatérales à travers une coopération dans les domaines de l'éducation et de la défense? C'est un accord qui choque, hein, l'opposition burundaise. Notre invitée, Élise Ngabire, journaliste burundaise en exil. Vous pouvez également nous laisser des messages sur notre numéro WhatsApp au 33 7 66 19 77 69. Élise Ngabire, comment expliquer que le régime de Pierre Nkurunziza n'a pas beaucoup communiqué sur cette annonce? On n'a pas senti un réel enthousiasme du côté de Bujumbura après l'annonce de cette reprise de la coopération bilatérale entre les deux pays.
C'est ça où il y a Loïc, parce que à ma connaissance, c'est après le passage du ministre des Relations extérieures à Paris en octobre 2018, si ma mémoire est bonne. Donc ça a pris du temps, le pouvoir de Bujumbura ne s'est jamais exprimé par rapport à cette reprise de coopération.
Oui.
Et c'est là où c'est inquiétant.
Mmh.
C'est là où c'est inquiétant, parce que normalement, au moment où les autres pays de l'Union européenne avaient décidé de retirer l'aide, ça aurait été une victoire pour le Burundi et ils auraient chanté ça. Oui. On les connaît très très bien, ils auraient chanté ça, mais on n'a rien entendu, rien n'est sorti depuis 2018.
Oui.
C'est là où c'est inquiétant.
Oui.
Et c'est là où il faut chercher à savoir ce qui se cache derrière cette reprise de coopération.
Très très bien. Vous pensez qu'il y a autre chose, par exemple, parce qu'on sait très bien que le régime de Pierre Nkurunziza était très critique à l'encontre de la France. Là, avec la reprise de cette coopération, le régime aurait pu communiquer et annoncer justement par grand renfort de communication cette reprise de la coopération bilatérale.
C'est une hypothèse que j'émets là.
Oui.
Je pense que si Pierre Nkurunziza peut-être a accepté de ne pas briguer en quatrième mandat, voilà, en quatrième mandat. Vous voyez, on ne sait même plus à quel mandat il en est.
Oui.
Si il a accepté peut-être de céder, peut-être que la France ça l'a motivé à reprendre la coopération. Mais j'en doute fort parce que jusque là, le président Pierre Nkurunziza ne sait jamais. Il a laissé une sorte de doute.
Oui.
Personne ne sait s'il va se représenter ou pas. Soit il annonce qu'il ne va pas se représenter, soit il se considère comme le roi du Burundi. Et quand on sait combien de temps des rois passent au pouvoir, restent au pouvoir, c'est pas pour c'est pour une quarantaine, voire 50 ans. Donc là, je ne sais pas ce que Nkurunziza a promis à la France.
Oui.
Qu'il ne se représente pas en 2020.
Oui.
Attendons voir. Le temps nous le dira.
Oui.
Le temps nous le dira. On est proche de 2020. Et si j'ai bien compris, il y a déjà quelques opposants qui seraient partis à Bujumbura pour préparer les élections. Mais je ne vois pas de quelles élections ils sont en train de préparer. Mais l'histoire nous le dira et le temps nous le dira très très vite.
Alors, est-ce que l'opposition qui vit en France est entrée en contact avec le ministère français des Affaires étrangères ou d'autres autorités de l'État français pour avoir des explications?
Alors, je ne saurais pas m'exprimer en place et lieu des opposants parce que moi, je suis journaliste indépendante.
Oui, oui.
Jusque-là, je n'ai rien entendu qui est sorti de cette opposition.
Oui.
Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui ont dû décrier cette décision qui a été prise, qui ont dû voir avec le ministère. Mais j'en sais rien jusque-là. Je ne sais pas ce que l'opposition burundaise en France est en train de faire pour amener la France à la bonne décision.
Mais d'après vous, cette opposition est choquée aujourd'hui? Elle est en colère après cette décision, abasourdie même.
C'est pas seulement les opposants.
Ouais.
C'est tout Burundais qui est pour le respect des principes, tout Burundais qui du moins aspire à un changement pour ce pays, il est choqué.
Mmh.
Oui.
33 1 55 07 58 00, vous pouvez intervenir et réagir et donner votre avis concernant cette annonce de la reprise de la coopération bilatérale entre la France et le Burundi, qui ont décidé donc de reprendre une coopération dans les domaines de l'éducation et de la défense, un accord conclu alors que l'Union européenne venait de renouveler ses sanctions à l'encontre du régime de Pierre Nkurunziza. L'opposition burundaise se dit abasourdie. Le Burundi en crise depuis que le président Nkurunziza a décidé en 2015 de briguer un troisième mandat qu'il a obtenu la même année et jusqu'ici sous sanction de l'Union européenne et de ses États membres, notamment pour son refus de négocier avec l'opposition en exil et les multiples violations des droits de l'homme qui lui ont valu l'ouverture d'une enquête de la CPI pour crimes contre l'humanité. La France semble avoir décidé de faire cavalier seul, donc appelez-nous, laissez-nous même un message sur WhatsApp au 33 7 66... 19, 77, 69. Alors Élise Ngabire, je disais en introduction, vous êtes journaliste en exil. Alors quelle est votre situation aujourd'hui en France?
Alors, comme d'autres journalistes qui se sont réfugiés dans différents pays partout dans le monde, vous savez, il y a des journalistes burundais, après la destruction des médias,
on
est dispersés. Il y en a qui sont au Rwanda, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en Belgique, il y en a qui sont ici en France.
Oui.
Et je vous l'ai dit déjà dès le début, c'est la première fois que la France accueille une dizaine de journalistes burundais sur son territoire.
Oui.
Alors, ma situation, c'est celle des autres journalistes partout dans le monde.
Oui, oui.
Voilà, on a été contraints de partir et on se retrouve dans des pays qui nous vous travaillez dans un premier temps.
Vous travaillez dans un organe de presse important au Burundi. Hein.
Alors, je travaille pour le groupe de presse Iwachu.
Oui.
Et là, pour garder le pied dans le métier, on a créé Iwachu Europe.
Oui.
Et je travaille en tant que pigiste.
Oui.
Et je garde un œil sur le Burundi. Je garde le pied dans le métier, mais c'est pas le cas pour tous les journalistes.
D'accord.
Il y en a qui ont dû se reconvertir en autre chose,
oui,
qui travaillent dans d'autres domaines parce qu'ils peuvent pas trouver du travail dans les médias français.
Oui, oui, effectivement, la situation de la presse est difficile en France, hein, déjà.
Ils ont des projets, mais parce que les projets ne sont pas financés pour pouvoir travailler et rester dans le domaine de la liberté.
D'accord.
Il y a Reporters sans frontières qui essaie de faire de son mieux,
oui,
mais il a lui aussi des moyens limités. Il y a la Maison des journalistes qui a accueilli, la Maison des journalistes à Paris qui nous a accueillis, qui a accueilli un certain nombre de Burundais, qui essaie de faire de son mieux pour nous intégrer.
D'accord.
Mais après, ça reste compliqué. On ne va pas s'intégrer dans 2 ans, dans 3 ans.
Oui,
c'est question de temps. Et avec des projets qu'on est en train d'élaborer, je pense qu'on pourra un jour trouver un financement et puis du coup pouvoir garder le pied dans le métier et pouvoir exercer, continuer à exercer et surtout ne pas perdre cette liberté.
D'accord.
On s'est battu pour ça, faut pas perdre.
Très bien. Oui. Restez avec nous, Élise Ngabire. Nous allons prendre Jules qui souhaite intervenir. Bonjour, Jules.
Oui, bonjour Africa Radio, bonjour auditeurs. Oui, je disais que j'étais pas surpris par la réaction de la France. La France est dans son rôle et qui défend bien ses intérêts.
Oui.
Et j'ai toujours constaté que la France supporte toujours les dictateurs. Donc c'est pas vraiment une très grande surprise pour moi.
D'accord.
Parce que même votre invité me dit ceci, que peut-être le président a promis de ne pas se présenter en 2020.
Oui,
non, il va se représenter en 2020.
Oui, ça, on n'en sait rien.
Voilà, voilà. Non, il faut pas être vraiment naïf.
Oui.
Pourquoi qu'il va pas se représenter en 2020.
D'accord.
Et c'est pas la première fois, parce que il y a de cela 2 mois, l'Union européenne a voté une résolution contre le Cameroun.
Oui.
Ça n'a pas empêché la France derrière de financer le gouvernement camerounais pour payer les fonctionnaires au mois dernier. Donc c'est pas vraiment une surprise pour moi.
D'accord, vous n'êtes pas surpris. Comment réagissez-vous à l'argument du Quai d'Orsay qui dit que il s'agit pas d'une reprise de l'aide au gouvernement burundais mais aux populations?
Non, ça vous y croyez? Non, ça c'est l'argument des politiciens.
Oui.
Ça c'est l'argument des politiciens. Il faut pas y croire. Et en plus, pour dire honnêtement, l'Afrique n'a pas besoin d'aide.
Oui.
Voilà. Il faut que les Occidentaux arrêtent de nous dire qu'ils sont tentés d'aider l'Afrique. Non, l'Afrique n'a pas besoin d'aide.
D'accord.
Les Africains doivent s'organiser et construire leur pays tout seul. L'Afrique n'a pas besoin d'aide.
D'accord.
Donc, voilà. Donc, même si ces dictateurs-là restaient au pouvoir et travaillaient bien pour que la population ne misait pas, ils ne devaient pas avoir de problème.
Oui.
Même s'ils sont dictateurs, mais ils travaillent bien pour la population. Voilà. Oui. Je ne trouve pas l'inconvénient.
Ouais, je ne sais pas si un dictateur, comme vous dites, travaille bien pour la population. C'est peut-être contradictoire, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est une opinion. Merci beaucoup, Jules, pour votre intervention. 33 1 55 07 58 00. Nous avons en ligne Camara. Camara, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, Camara, on vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour.
En fait, moi, j'interviens parce que, surtout par rapport au simagré de la France,
un
coup, ils sanctionnent le Burundi, et puis un coup, l'Union européenne donne son aval pour ne pas que les Européens coopèrent avec le Burundi, et puis la France se cache derrière
pour
renouer des relations. C'est-à-dire qu'on ne sait plus le rôle de la France en Afrique francophone.
Oui,
ce qui s'est passé exactement en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé au Mali. La France, vous voyez, au départ, on accusait la France. Les gens nous disaient non.
Oui, camarade.
La France, voilà, je veux dire, on accusait la France. Les gens disaient non, c'est faux, etc., etc. Et dès qu'on n'est pas d'accord avec la France, vous êtes dictateur, vous êtes ceci, cela, vous êtes. Voilà, et le jour où vous êtes d'accord avec eux, vous êtes blanchi, etc., etc. Il faut arrêter ça, quoi, sincèrement.
D'accord.
Cette hypocrisie-là. Vous voyez, moi, je vous donne un exemple aujourd'hui. Blaise Compaoré, qui a fait 23 ans au pouvoir,
a
été chuchoté par la France. Mm. Et tout d'un coup, on le sort du... Il n'a plus de pouvoir, on l'amène en Côte d'Ivoire.
Oui.
La Côte d'Ivoire, les contribuables ivoiriens blanchit sur Blaise Compaoré, etc. Alors que c'est un criminel, il doit répondre de ses crimes.
Oui, oui.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait en Côte d'Ivoire ? Pourquoi la France l'a amené chez nous en Côte d'Ivoire ? Pourquoi ? C'est-à-dire que la France protège ceux qu'ils aiment, ceux qui les arrangent, et quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes criminel, il faut que vous ayez en prison tout de suite. Donc, le Burundi, qu'est-ce que la France cherche au Burundi ?
Mmh, ouais.
Il faut qu'ils nous expliquent ça réellement, parce que c'est du super flou, ça.
Qu'est-ce que la France cherche au Burundi ? Oui, oui.
Voilà. Qu'est-ce qu'ils font ? Parce qu'un coup, ils sont d'accord, un coup, ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent ?
D'accord.
C'est pour aller prendre des armes encore en cachette ?
D'accord. Merci beaucoup, Camara, pour votre intervention. Nous avons en ligne Ernest. Ernest, bonjour. Je crois qu'il y a une question, Ernest.
Oui, j'ai une question à votre invité.
Oui.
Je ne connais pas bien la Burundi.
Le Burundi, oui, oui.
Vous voyez, je fais des fautes. Et oui. Tout à l'heure, elle parlait de l'aide de la France au lieu que la France aide le Burundi au niveau de... parce que la population n'arrive pas à manger.
Oui.
Au niveau... Et moi, je voulais demander à la dame, c'est quoi l'économie de le Burundi,
voilà,
au niveau de l'agriculture ? C'est quoi ? Est-ce qu'ils ont des matières premières ? Est-ce qu'ils ont des
pays
développés ? Et pourquoi ils n'arrivent pas à se développer ?
D'accord.
C'est ça.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Ernest, pour vos questions. Hein. Nous retrouvons notre invitée, Élise Ngabiré, hein, journaliste indépendante en exil en France. Alors, Élise, quelles sont les richesses du Burundi et quelle est la situation économique aujourd'hui, économique et sociale du pays ?
Alors, le Burundi, malheureusement, il est parmi les pays les plus pauvres au monde.
Oui.
Je pense qu'il est, il est parmi les trois pays les plus pauvres. Et pourtant, c'est un pays qui... en matière agricole,
oui,
on dirait que la population, normalement, ne devrait pas mourir de faim,
oui,
tant qu'il pleut 9 mois sur 12.
Oui.
Et c'est juste qu'il manque une politique, il manque de politique d'organisation de cette population qui produit et n'arrive pas à joindre les 12 mois,
oui,
de l'année.
Oui, oui.
À cause d'une mauvaise politique. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple.
Oui.
Le Burundi, il y a l'ouest, la partie ouest. C'est la partie où on cultive des tomates. Et quand la saison est bonne, il peut produire jusqu'à ce que ça pourrisse. Parce qu'il n'y a pas de politique pour la conservation de la récolte.
Oui.
Ça pourrit, on jette, au lieu de transformer la transformation des produits qui ont été cultivés pour que ça serve pour la saison prochaine.
Oui.
Et
oui,
voilà, et la population n'est pas encadrée, c'est tout ça qui manque. Mais du coup, le Burundi, il a des potentialités. Le Burundi, il a un grand lac qui produit du poisson. Il y a du poisson et chaque année, le poisson du Burundi, c'est le plus bon poisson du monde. Il y a le Rwanda qui vient s'approvisionner au Burundi.
Ouais.
Il y a des pays limitrophes qui viennent s'approvisionner au Burundi en poisson. Le Burundi, c'est un pays qui a des minerais qui jusque-là ne sont pas exploités ou exploités d'une façon clandestine, à ce que ça profite à une clique de dirigeants et ne profite pas directement à la population. Le Burundi n'est pas un pays pauvre en soi, mais il est pauvre parce qu'il manque une politique de distribution distribution des matières premières qui sont gérées par une minorité qui s'enrichit au détriment de la masse.
De la population. Restez avec nous, Élise Ngabiré. Nous allons prendre un autre auditeur. Nous avons en ligne Steph. Steph, bonjour.
Oui, bonjour Nadir.
Bonjour. Steph, c'est Stéphane.
Stéphane.
D'accord.
Oui. En fait, je suis d'accord avec la dame. Ça fait mal au cœur tout ce qu'elle est en train d'expliquer. Lorsqu'on écoute tout ça, on se pose des questions. Où allons-nous pendant que aujourd'hui tout se fait. On peut plus faire des choses aujourd'hui dans les coulisses où on va se cacher, on va signer des contrats où personne ne sera au courant dans 2 ans, 3 ans.
Oui.
C'est déplorable et c'est malheureux. Ce qui m'a choqué, c'est la réponse du Quai d'Orsay. La question que vous avez posée à celui qui était là juste avant moi,
vous
avez posé la question pour dire que le Quai d'Orsay a répondu pour dire que ses accords avec le Burundi, c'était surtout pour aider la population.
Voilà,
c'est une façon de cracher sur nous encore.
Ouais.
C'est une façon de cracher sur nous. Mais ça, c'est on n'a pas de cœur, en fait. Le problème, c'est que lorsqu'on écoute tout ce qui se passe dans les radios, et quand on écoute des diplomates, hein, enfin, on suppose que ce sont des gens qui ont étudié, ce sont des gens qui ont fait des études, ils sont à ces postes-là parce qu'ils les méritent. Donc, on suppose qu'ils sont bien conscients de tout ce qui se passe dans certains pays comme le Burundi. J'imagine, moi, bêtement, le bas peuple. Donc, tout ça qui paye, c'est le bas peuple pour les intérêts d'un pays ou d'une puissance. Le bas peuple paye au prix fort, au prix du sang. Parce qu'à peine le Burundi, les gens sont morts. Déjà, il n'y a pas eu déjà des procès. Monsieur Nkurunziza, il vit bien sa vie avec sa famille. Les gens sont en train de crever de faim. Aujourd'hui, la France va signer des contrats avec le Burundi pendant que l'Union européenne est sous pleine sanction. Qui se moque de qui? Vous allez aider la population en faisant quoi? En donnant des armes? En distribuant des armes pour qu'on aille au combat? C'est une façon d'aider la population? C'est malheureux, c'était mon coup de gueule. J'ai pas voulu appeler, mais ça m'a fait tellement mal au cœur. Et lorsque j'écoute cette dame parler à côté de votre invité, ça me fait encore plus mal au cœur. J'ai les larmes aux yeux. C'est pitié. Pitié, je sais pas. Vraiment, si ces gens-là peuvent écouter, nous tous que notre radio, c'est vrai qu'ils vont pas prendre ça en considération, mais s'ils peuvent écouter notre radio, ils essaient un peu de réfléchir un peu plus. Ils font des études pour, nous sommes tous appelés à passer. Tout le monde, que ce soit blanc, rouge, jaune, vert, on va y passer. Personne ne ramène tout ce qu'on est en train de faire. Les hommes sont sur terre. Personne ne ramène ces richesses-là. Bon service, Nadir. Merci beaucoup.
Merci Stéphane pour votre intervention. 33 1 55 07 58 00. Nous avons en ligne Blaise. Blaise, bonjour.
Bonjour à votre auditeur.
Bonjour.
La dame, je ne sais pas si elle est.
Elise Ngabire, oui, journaliste. Oui.
Bonjour, madame Elise Ngabire. Moi, je suis d'RDC. Je voulais juste. Parce que moi, je vois des mauvais oeil ce rétablissement des relations entre la France et le Burundi. Ça fait plusieurs années, la population souffre. Et puis. Du jour au lendemain, moi, je ne savais pas que le Burundi avait des richesses naturelles. Il y avait des minéraux, comme vient de le dire. C'est-à-dire, si c'est exploité clandestinement. Et là où il y a les minéraux, les Occidentaux s'infiltrent pour essayer de passer, soi-disant, on vient aider la population et puis commencer à exploiter. Mais bon, c'est le même cas que chez nous au Congo, en RDC. Donc, là où il y a les minéraux, il y a des richesses naturelles, il y a des zones de conflit qui s'installent, et puis après, je ne sais pas, le président Nkurunziza, moi, en fait, je l'aime parce qu'il a su adopter une attitude de fermeté avec tous ces dirigeants africains et occidentaux, quoi. Moi, je trouve que... Il est fort en ça.
Vous dites qu'il est fort, mais il a quand même accepté la reprise des relations bilatérales avec la France sans en parler. Je veux dire qu'il y a eu très peu de communication à ce sujet.
Sans en parler, mais je ne sais pas si c'est pourquoi j'ai dit, moi je vois ça d'un mauvais œil. C'est ça, Donc c'est pas à lui seul de décider, c'est à voir avec tout l'ensemble politique de son pays, d'accepter aussi. Il faut répondre à les relations bilatérales.
D'accord.
C'est ce que je voulais dire, pour le Burundi.
Merci.
C'est un pays qu'on aime bien,
Merci beaucoup, Blaise, pour votre intervention. Alors, Inès Ngabire, vous avez entendu donc les réactions des auditeurs, qui sont aussi critiques concernant cette reprise de la coopération. Qu'est-ce que la France cherche au Burundi, d'après vous? C'est ce qui revient essentiellement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une coopération d'intérêt? La France a un intérêt particulier au Burundi aujourd'hui?
Alors, c'est ce que je vous disais au début. Attendons, le temps nous dira plus par rapport à cette coopération clandestine. Ça a été clandestine, je suis désolée de le dire comme ça. Parce que ça appartient pas à l'ambassadeur de la France au Burundi d'annoncer solennellement cette coopération. Après tout, ça reste une affaire entre peuple burundais et peuple français. Donc, qu'il y ait des intérêts cachés, là, j'en doute pas, il y en a sûrement, certainement, il y en a. Mais attendons voir, je ne saurais pas me prononcer avant, mais des intérêts, il y en a quand même.
Vous pensez que la France peut revenir sur sa décision? Parce que c'est vrai que l'annonce de cette reprise a été peu médiatisée, on en a très peu parlé. Est-ce que vous pensez que si jamais il y a une action de l'opposition, par exemple, le gouvernement français peut revenir sur cette décision?
Bien sûr, elle peut revenir sur sa décision, ne fût-ce que pour... je vous donne un exemple, là, tout récemment, il y a,
Il y a un diplomate canadien qui était parti au Burundi qui est parti voir le président Nkurunziza, mais après il est rentré. Il a demandé pardon au nom du peuple canadien ou à son nom. Voilà, parce qu'il savait pas,
Oui.
Mais je dirais pas que la France ne sait pas ce qui se passe au Burundi.
Oui.
La France, elle est au courant. Et si elle est bien intentionnée, si la France cherche réellement le développement de ce pays, la sortie de crise.
Oui.
Surtout, j'insiste sur la sortie de crise. Parce que c'est pas financé les militaires, c'est pas financé le ministère de la Défense que ça va arranger les choses au Burundi. Ça va plutôt empirer.
Est-ce qu'aujourd'hui, le pays est isolé sur le plan diplomatique?
Il est comment?
Isolé sur le plan diplomatique. On l'a entendu, Blaise, le précédent auditeur, disait que Pierre Nkurunziza a su tenir tête aux dirigeants africains et occidentaux. Alors tout d'abord, comment réagissez-vous à ce que dit Blaise? Et est-ce que sur le plan international, le pays aujourd'hui est isolé?
Le Burundi est isolé depuis 2015. Burundi est isolé. Et je pense que c'est pourquoi le Burundi, d'ailleurs c'est pour cette raison qu'il a été gêné d'annoncer cette reprise de coopération après tout ce qui s'est raconté depuis 2015 sur la Belgique. La Belgique, là, on n'en parle même plus parce que c'est une histoire de colonisation. Mais d'une manière générale, le Burundi était, il était isolé par rapport à la France, par rapport à l'Union européenne, par rapport à tous les pays qui ont à un certain moment essayé de dire à Pierre Nkurunziza, arrêtez, stop. Là, le Burundi, on le sait très très bien, il est très isolé. Donc là, il n'y a même pas à douter. Et c'est ça qui a peut-être dérangé le pouvoir de Bujumbura pour pouvoir l'annoncer officiellement d'après tout ce qui s'est dit.
D'accord, très bien. Ça entre en contradiction avec la politique et le discours que tient le régime actuellement sur le rapport à l'Occident. Oui.
Exactement. Exactement.
Alors nous avons en ligne Manjou. Manjou, bonjour. Allô.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Allô. Bonjour, monsieur. Allô.
Oui, on vous écoute, Manjou. Bienvenue, vous êtes à l'antenne.
Ok. C'est des charognards, ces gens-là. Ils font rien pour rien, en fait.
Oui.
Ces gens-là, je ne parle pas du peuple français, je parle de la diplomatie française.
Oui.
Vous voyez, la dame, elle a tout dit tout à l'heure. Le Burundi, c'est une terre facile.
Oui.
Il y a des minéraux non inexploités qui sont inexploités. Donc, parce que la France fait des choses comme ça, c'est les mêmes sortes qu'on suit aujourd'hui au Mali.
Oui.
On a vu il y avait des intérêts, des vieux politiques. Voilà. C'est dû au parti notre malheur. Donc, c'est ça qui est en train d'arriver au Burundi. Mais en nous disant que non, ils font la coopération bilatérale pour venir l'aide à la population, c'est faux.
Oui.
Lorsqu'on est hostile à un président, on n'a pas besoin de passer par lui pour faire une aide. On a vu le cas de Venezuela.
Oui.
Les Américains, soi-disant, l'aide alimentaire ou je ne sais pas quoi, là, ils ne sont pas passés par les présents.
Par les autorités.
Voilà, ils sont passés par les opposants, par l'opposition, par les ONG.
Même si le pouvoir au Venezuela a quand même pu bloquer pendant plusieurs semaines cette aide humanitaire.
Non, c'est l'exemple que je vous dis qu'une fois qu'on est hostile à un président, on n'a pas besoin de passer par lui pour donner de l'aide à sa population.
Très bien.
Non, c'est pas qu'il nous prenne pour des sévères, en fait.
Très bien.
Voilà, le Burundi, c'est un petit pays, malheureusement. Ils sont traumatisés par ces présidents-là. Ils oppriment son peuple, ils ne savent pas comment faire. Il n'y a personne pour lever son petit doigt.
D'accord.
Pour venir en aide, quoi.
D'accord.
C'est dommage.
Merci beaucoup, Manjou, pour votre intervention. Alors, Élise Ngabire, comment vous voyez l'avenir du pays? Quelle sortie de crise aujourd'hui au Burundi?
Bon, malheureusement, la sortie de crise, c'était le maintien des sanctions qu'ils ont prises pour le Burundi.
Oui.
Sauf que la France vient de violer les règles du jeu.
Oui.
Donc franchement, je dois dire que on est tout le monde, on ne sait pas où on va. On dit, mais c'est quoi un pays qui du coup a soutenu l'action de l'Union européenne? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est le bon moment d'agir ou bien c'était le moment de bien ficeler, mettre une pression pour qu'en 2020 on est à une année des élections?
Oui.
C'est pas ça qui va régler le problème.
D'accord.
Désolé.
Très très bien.
Désolé.
Merci beaucoup Élise Ngabire d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup aux auditeurs pour vos interventions. Le JDA a été réalisé par Maxime. Continuez le débat sur notre page facebook.com/journaldesauditeurs. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du JDA sur Africa Radio.